Daniel Spagnot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la communauté de communes du Sisteron et Buège, président de l'AMF 04 et maire de Sisteron. On va revenir dans quelques instants sur ces 40 ans, sur 40 bougies d'engagement politique que vous avez soufflé il y a quelques jours. Avant cela, ce jeudi, Emmanuel Macron est attendu dans les Hautes-Alpes autour du lac de Serre-Ponçon à Savigny-le-Lac pour ce plan national eau, un plan fortement attendu notamment par la profession agricole pour préserver ses cultures. Le préfet Marc Chapuis a placé le département en état de vigilance. Plusieurs communes rencontrent des problèmes d'alimentation en eau potable. Combien sont-elles aujourd'hui? Quelle réponse doit être apportée à l'avenir pour cette profession agricole avec cette venue du président?
Bah écoutez, déjà, moi je suis ravi que le président de la République vienne chez nous, qu'il se rappelle que la ruralité et la montagne, ça existe aussi, et qu'on a nos propres difficultés. Ce qui est un paradoxe, c'est que c'est nous qui fournissons, grâce à nos montagnes, l'eau pour tout le monde, et c'est nous qui sommes les premières victimes, puisque c'est à nous qu'on demande, en premier lieu, de faire des économies. Alors j'espère qu'aujourd'hui, justement, il saura rendre grâce à nous, à nos montagnes, et faire en sorte qu'on soit moins lésé que l'année dernière, et que des mesures soient prises surtout dans les villes des Bouches-du-Rhône, par exemple, qui profitent de l'eau de la Durance.
Vous espérez beaucoup de ces mesures? Il y a une cinquantaine de mesures. J'ai l'impression aussi qu'il y a des mesures aussi de bon sens qui sont déjà mises en place sur le territoire.
Oui, d'après ce que je sais, les mesures qui vont être annoncées sont des mesures de bon sens. C'est qu'un premier volet, parce que bon, on est au printemps, il peut encore pleuvoir, il a quand même plus de neiger que l'année dernière, peut-être le lac de Serre-Ponçon se remplira plus facilement, mais quand même, je voyais hier soir une réunion où je me trouvais avec des maires qui étaient très inquiets en se disant, mais quelles annonces il va nous faire, voilà, parce que pour qu'ils se déplacent depuis Paris, surtout en ce moment avec la crise terrible que nous vivons, pour venir à Savigny-le-Lac, c'est que vraiment, il y a un gros problème.
Est-ce que vous y attendez à cette visite du côté des Hautes-Alpes, des Alpes du Sud, autour du lac de Serre-Ponçon, qui est un symbole de la sécheresse de cet été, de cette visite pour annoncer ce plan très attendu, notamment qui était annoncé par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu?
Oui, je sais que Béchu devait venir, mais j'étais vraiment... hier matin, quand on m'a annoncé ça, j'ai été vraiment très, très, très surpris. C'est d'ailleurs Monsieur Muselier qui me l'a fait savoir, et j'étais très surpris. Oui, je ne m'attendais pas du tout à ça, surtout en ce moment. Mais je pense que c'est un geste très symbolique qu'il a voulu faire. Et en venant à Serre-Ponçon, eh bien, c'est encore plus symbolique, parce qu'avoir en ce moment le barrage de Serre-Ponçon très bas, on se rend compte du manque d'eau. Donc, je pense que ça va être une journée très intéressante pour tout le monde.
On revient dans les Alpes de Haute-Provence avec votre sénateur Jean-Yves Roux qui a déposé une proposition de loi le 16 mars dernier, proposition qui vise à ne plus rendre obligatoire le transfert de la compétence eau et assainissement aux intercos en 2026. Cela permettra aux communes de la conserver. Va-t-on vers une guerre de l'eau si l'État n'entend pas la voix rurale? Est-ce que vous êtes en accord avec le sénateur?
Bien sûr, je travaille main dans la main avec Jean-Yves Roux, c'est un excellent sénateur. C'est un ami, il est présent de partout, il fait un travail formidable, un peu ce que je faisais moi quand j'étais député d'ailleurs, et surtout il travaille en étroite collaboration avec le sénateur des Hautes-Alpes, Jean-Yves Arnaud, qui lui aussi était présent sur le terrain. D'ailleurs, l'autre jour, en revenant du Sénat, j'ai beaucoup apprécié son geste, il est venu me féliciter pour mes 40 ans de carrière. Donc, tous les deux, ils font un duo vraiment qui défend la ruralité. Et justement, sur ce point-là, ils savent que tous les maires sont vent debout chez nous. Moi, les 60 maires de la communauté de communes, si sont en Ébuèche, ont tous voté contre le transfert de l'eau et de l'assainissement. Mais, quand même, comme on est des maires responsables, on a quand même lancé les études. C'est le maire de Thuriez qui est chargé par une délégation que je lui ai donnée de s'occuper de ce dossier, on prépare quand même, on fait comme si le 1er janvier 2026, la compétence passera à la communauté de communes, parce qu'il ne faudrait pas que le 1er janvier 2026, si on ne prépare rien, on va se trouver dans une situation très grave, où certaines communes n'auront peut-être plus d'eau. Donc on est en train de faire un diagnostic, on est en train de préparer, on est en train de mettre du personnel en place pour préparer. Alors si le gouvernement suit le Sénat, eh bien, écoutez, à ce moment-là, on reviendra dans notre projet. Et s'il ne le suit pas, et on sera prêt. Il y a même des intercommunalités qui anticipent. On en connaît plusieurs qui vont prendre la compétence un an avant parce que justement elles ont préparé ce chamboulement. Ça va être un véritable chamboulement.
On revient sur votre commune de cœur, votre commune de toujours Sisteron, avec ce beau projet, la maison de santé, dont l'aile désaffectée de l'hôpital de Sisteron a ouvert il y a une semaine avec deux généralistes, un cardiologue, un orthoptiste, un psychologue, un otorhino-laryngologiste, un ORL pour dire simple, une diététicienne, plein de spécialistes, notamment un projet dont la Chambre régionale des comptes a mené une enquête et a fait l'éloge. Vous l'avez annoncé cette semaine en conseil municipal. J'imagine que c'est un projet que vous avez porté et qui a beaucoup de valeur pour vous, notamment aussi qu'en termes financiers, que la Chambre des comptes salue ce projet, cette maison de santé.
Oui, mais écoutez, la maison de santé, c'était indispensable, mais en même temps, c'est moi qui ai le moins de mérite, mais c'est certainement le projet dont je suis le plus fier. Quand je vais visiter, que je vois ces magnifiques installations, et je suis surtout fier parce que c'est la première maison de santé qui se trouve dans un hôpital de proximité. Je crois que si on était vraiment averti dans ce pays, on utiliserait tous ces hôpitaux, justement, malheureusement, qui ont fermé beaucoup de services de proximité, pour y installer à l'intérieur une maison de santé. Parce que ça ferait revivre l'hôpital, et en même temps, ça rendrait des services en mutualisant certaines choses. À la maison de santé, ça reviendrait beaucoup moins cher. Et puis, ça aurait de la cohérence. Alors, nous, notre maison de santé, en effet, elle est ouverte depuis un mois, elle a un succès fou. Et surtout, nous aurons 5 médecins, puisqu'il y en a déjà 2 qui sont là depuis le début. Il y en a 3 qui arrivent, il y en a 2 qui arrivent aujourd'hui. Donc, mais pas la maison de santé, ils arrivent avec un déménagement, à Sisteron. Et puis, une dame, médecin, qui, elle, quitte l'hôpital où elle est parce que son mari est nommé chez nous pour son travail. Donc, on aura 5 médecins généralistes. Vous savez qu'il en faut 2 obligatoirement pour ouvrir une maison de santé. Alors, je crois que les Sisteronnais qui, en ce moment, se plaignent de pénurie de médecins, eh bien là, on retrouve le nombre de médecins qu'on avait il y a 10 ans.
Est-ce que vous avez l'impression de répondre à cette fameuse problématique du désert médical avec cette maison de santé sur le bassin Sisteronnais?
Ah, bah écoutez, c'est plus un désert médical parce que avec ces 5 médecins, bon, mais il y a encore un problème avec les chirurgiens dentistes, même s'ils sont aussi nombreux qu'avant, mais il en faudrait un de plus parce que la population, bien sûr, a beaucoup augmenté. Et puis dans les villages, dans les communes environnantes où il y avait des chirurgiens dentistes, bon, malheureusement, ils ont disparu petit à petit. Mais autrement, c'est pas un désert de santé. On a quand même, nous, encore la chance d'avoir des urgences la nuit. Elles avaient fermé, souvenez-vous, pendant un an, malheureusement, la nuit. Mais là, depuis, ça fonctionne bien. J'ai rencontré Madame la directrice du CHICAS il y a 48 heures. On a fait le point. On va faire 1 million de travaux dans le cadre du plan de relance. On va refaire complètement le service médecine de l'hôpital de Sisteron. Donc, non, au contraire, on peut dire qu'une ville de 8000 habitants qui a la chance d'avoir un hôpital comme on a, une maison de santé comme on a, avec des spécialistes qui viennent faire des permanences régulièrement, on n'a pas à se plaindre.
Vous fêtez vos 40 ans de mandat en 40 ans. Vous ne pouvez pas vous plaindre de votre commune avec le travail que vous avez mis en place. Comment la vie politique a-t-elle changé en ces 4 décennies? Quel est votre regard sur la vie politique de notre territoire ou même plus global avec un peu de perspective sur ces 40 années?
Mais déjà, alors, au point de vue politique, avec une grande P, avant, il y avait les partis politiques. Vous aviez le Parti Socialiste, le Parti Communiste, vous aviez le RPR, l'UDF. Voilà, de grands partis avec de grands hommes politiques, avec des figures qui étaient toutes capables de pouvoir gouverner. On se présentait aux élections sur des programmes, avec des idées bien précises. Une fois qu'on était élus, on travaillait ensemble, c'était fini. Maintenant, il n'y a plus de parti politique, il y a un mélimélo épouvantable. Il y a un manque de respect des uns des autres. La démocratie est très malade. Ça me choque beaucoup, parce que moi, je suis vraiment un démocrate. Mais par contre, ce qui a changé le plus pour moi, c'est qu'avant, il y a encore 10 ans, on respectait qui dans une commune? On respectait le maire, le curé, l'instituteur. C'était les 3 piliers de la commune. Dites-moi aujourd'hui qui on respecte. aucun des trois. Et c'est ce qui me froisse le plus. Moi, je suis surpris de voir déjà à travers les médias, voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'irrespect complet. Moi, j'ai été malade quand j'ai vu que le ministre du Travail était traité d'assassin, parce que je le connais. C'est un garçon formidable, c'est un garçon qui a un cœur. J'ai été député avec lui, on se voyait souvent. Ça m'a rendu malade de voir ça. Moi, j'ai pas vécu ça quand j'ai été pendant 10 ans député. Il y avait un respect extraordinaire entre les uns et les autres. Et en même temps, on se rencontrait, on discutait, on parlait, on mangeait ensemble. Là, c'est une guerre permanente à l'Assemblée nationale. Voilà, tout ça, vraiment, ça pose question.
La violence verbale, la violence auprès des élus, vous le voyez, vous le sentez, vous craignez qu'un drame puisse un jour arriver, malheureusement ?
Ah oui, malheureusement, les élus sont de plus en plus attaqués. Vous voyez, dernièrement, à Camessan, Madame le maire de Camessan n'en a pas parlé. C'est vraiment dommage dans les médias, parce qu'on devrait en parler. Je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de ça. Elle a été maltraitée par un administré. Elle a été menacée de mort, ainsi que sa famille. Eh bien, ça ne devrait pas se produire. On doit respecter le maire. Il est élu démocratiquement. Alors bien sûr que nous, on doit respecter aussi nos administrés, mais c'est ce qu'on fait. Mais nous, on n'a pas le droit de nous traiter comme ça. Et je pense qu'il faut que la justice soit extrêmement sévère vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'autrement, la démocratie, elle va partir en biberine, et dans pas longtemps, alors je me demande à quel pays on va vivre.